Toucher Terre, Émilie Glory, sur Radio Grand Ciel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro et dans cette nouvelle année. Un numéro très chouette, je vous le garantis, pour lequel nous allons prendre le temps. Le temps, c'est une denrée rare dans nos sociétés pressées. Nous avons beau le savoir et le dire, nous sommes encore trop peu nombreux à vraiment réussir à prendre le temps. Mais le temps de quoi ? Tous les intervenants d'aujourd'hui ont choisi de mettre leur temps à profit au service de la nature et des défis qui l'attendent. Si cette cause est chère à vos cœurs, je parie qu'à la fin de ce numéro, après avoir entendu leur témoignage, vous choisirez vous aussi de lui donner quelques heures par jour, par mois ou par an. Pour faire honneur à nos intervenants du jour, et devant mon incapacité à faire des coupes sombres dans des moments de radio passionnants, j'ai choisi d'allonger la durée de Toucher Terre pour cette fois-ci. Je vous invite à me suivre à la rencontre de ceux et celles qui s'engagent, sachant que notre chemin aujourd'hui sera donc un peu plus long que d'habitude. Installez-vous confortablement, où que vous soyez, avec peut-être un coin de fenêtre par lequel regarder les arbres nus de janvier et les oiseaux qui s'y perchent. Voici le sommaire du jour. L'intervention mensuelle de nos partenaires de l'association Eure-et-Loire Nature sera celle de Michel Doublé, bénévole et ornithologue éclairé. Il nous parlera des oiseaux d'eau et du comptage qui les concerne à la mi-janvier, le comptage Wetlands, comprenez zones humides. Nous retrouverons le groupe Connaître et protéger la nature de Saint-Lubin-de-la-Haye. Que mijotent les chouettes renards ? Le 30 novembre dernier, en tout cas, il posait, avec l'aide de l'association Athéna 78, un nichoir à chouettes et frais. Avec Simon, nous y étions, reportage tout à l'heure. Mais tout de suite, l'intervention mensuelle de l'antenne eurélienne du Conservatoire d'espaces naturels. Une intervention plurielle, puisque Antoine Beck, responsable de la vie associative, est venu accompagné d'adhérents et de bénévoles qui ont choisi le conservatoire pour s'engager, chacun à leur mesure. J'ai le plaisir de recevoir Antoine Beck. Bonjour Antoine.
Bonjour Émilie.
Vous êtes en charge de la vie associative pour le conservatoire.
Tout à fait.
Également dans ce studio, Lloyd de Paillard. Bonjour Lloyd.
Bonjour.
Et puis Marc et Michel Julien, bonjour à tous les deux.
Bonjour Émilie.
Bonjour.
Par téléphone, également Sarah Pacro qui représente aujourd'hui sa famille complète, la famille Pacro.
Bonjour.
Alors nous avons toutes et tous un point commun. Autour de ce micro, nous sommes adhérents du Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre-Val-de-Loire. Alors je m'inclus parce que moi aussi je suis adhérente. Alors certains parmi nous sont aussi bénévoles, voire conservateurs bénévoles. On va revenir sur tous ces statuts et sur leurs nuances respectives. Avant cela, Antoine, je le disais, donc vous êtes en charge de la vie associative. C'est une dimension essentielle du conservatoire dont nous avons pu avoir quelques échantillons lors des précédentes émissions. Le conservatoire, c'est un organisme qui crée du lien, finalement, c'est un trait d'union, outre ses missions, bien sûr, de gestion de sites naturels. Alors, Antoine, quelle est votre mission ?
Je travaille essentiellement sur les personnes qui sont adhérentes et bénévoles, et puis un petit peu moins aussi sur les salariés en interne, mais c'est surtout sur l'aspect dynamisation de la vie associative. Et on a effectivement chez nous un statut très particulier qui s'appelle les conservateurs bénévoles et qu'on chouchoute un petit peu.
On verra pourquoi un peu plus en détail avec Lloyd. Alors, nos auditeurs s'en souviennent peut-être, dans la première émission de Touche et Terre, au mois de septembre, j'ai raconté ma rencontre avec le conservatoire et son action. J'avais d'ailleurs rendu un vibrant hommage au garde-animateur Tony Chevalier. C'est donc une sortie nature qui m'a fait découvrir le conservatoire et qui m'a donné envie d'y adhérer. Alors, ma première question, ça va être pour les uns et les autres. Comment s'est passée pour vous votre rencontre avec le Conservatoire d'Espaces Naturels ? Peut-être Michel, tiens.
Eh bien, nous arrivons sur Chartres après 35 ans en Normandie, donc avec un statut de retraité, jeune retraité, c'est-à-dire que nous en avions entendu parler en Normandie, sur Rouen, et en fait, on connaissait pas du tout ce qui se passait sur Chartres, et on a voulu donner un peu de notre temps, tout en apprenant, tout en protégeant, sachant que j'arrive d'un milieu agricole bien, bien bosseron.
Très bien. Et alors, pour vous, Marc, c'est alors un c'est peu la même histoire.
Oui, le même intervenant qui nous a fait connaître. Et moi, j'avais envie surtout de, du côté culturel et de connaître un petit peu, de connaître des choses que l'on côtoie, les oiseaux, des espaces protégés, etc. Et donc c'est cette chose-là qui m'intéressait le plus, quoi. Faire la connaissance de choses qu'on ne connaît pas alors qu'on les a à proximité de notre, tout près de nous, et qu'on ne sait pas les protéger peut-être.
Alors, je le disais, Sarah, vous représentez ici votre famille. Est-ce que vous pourriez déjà nous la présenter ?
Alors oui, on est une famille de 5 personnes, donc mon mari et moi avons 3 enfants, une grande de 18 ans, une deuxième fille de 15 ans et puis le petit dernier qui vient d'avoir 11 ans.
D'accord. Alors comment avez-vous rencontré, si j'ose dire, le Conservatoire d'Espaces Naturels ?
Eh bien, tout simplement par connaissance, puisque le papa d'un des meilleurs amis de mon fils est salarié du conservatoire. Mmh. Et donc, on a eu l'occasion d'en discuter au détour d'une conversation. Et puis, je m'y suis plus particulièrement intéressée par la suite parce que j'ai fait une formation d'animation nature. Par correspondance, ce qui fait que nos sujets de conversation ont été liés à la nature et à ce qu'on pouvait faire pour conserver nos espaces naturels.
Et Lloyd, pour vous alors ?
Alors moi j'ai rencontré le conservatoire, c'était en 2016, en octobre 2016, lors d'un chantier bénévole à la Tourba des Frous. Ça faisait déjà quelques années que je voulais m'investir dans une association environnementale suite à ma formation.
Qui est ?
J'ai un BPGEPS en éducation à l'environnement vers un développement durable. Donc ça permet de faire des animations tout public sur la thématique de l'environnement. Et donc j'ai vu cette annonce-là et je me suis dit, tiens, super, on va y aller. Et puis du coup, j'ai découvert le conservatoire, le site. Et en fait, en contrepartie, je suis tombé amoureux du site aussi.
Voilà. On y revient. Alors, il y a effectivement plusieurs niveaux d'engagement dans l'association. Commençons par le commencement, l'adhésion. Antoine, qu'est-ce qu'elle implique ?
Alors déjà, la bonne nouvelle quand même, c'est que nous battons un record cette année puisque nous franchissons le cap des 400 adhérents pour la première fois. Donc c'est une bonne chose. On a pas mal progressé ces dernières années. Et elle implique en fait tout simplement l'adhésion, c'est du soutien à l'objet de notre association. C'est déjà mettre quelques euros pour nous aider à réaliser nos missions. Donc la protection, la gestion, mais aussi la connaissance des sites et bien sûr l'aspect valorisation de nos sites. Donc pour donner une idée, 15 euros d'adhésion, c'est peu ou prou, hein. C'est 100 mètres carrés d'espaces naturels qui sont protégés. Donc voilà, ça donne une petite idée. Et puis après, l'adhésion, ça implique rien de spécifique, hein. On peut être simplement adhérent et puis après, effectivement, passer un petit peu de temps pour auprès à nos côtés pour aller un petit peu plus loin.
Alors, Sarah, vous êtes aujourd'hui adhérent du conservatoire. Pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir franchi ce pas de l'adhésion ?
Tout simplement pour s'engager à faire des actions concrètes, connaissant les objectifs du conservatoire, qui est de gérer des espaces naturels, également de communiquer au grand public tout ce qui est fait en matière de préservation. Tout ça, ces objectifs-là me plaisaient, concordaient avec ma vision que j'ai, qu'il faut un engagement pour faire avancer les choses. Donc être adhérente, aller dans ce chemin-là, et puis emmener mes enfants et mon mari dans la même voie, c'était un petit peu... La suite naturelle à donner.
Oui, vous le vivez vraiment en famille?
Oui, parce qu'on a la possibilité de faire pas mal de balades nature avec le conservatoire, et les enfants aiment beaucoup découvrir tout ce qu'on peut y voir lors des balades, faire une balade nocturne à la lampe de poche pour découvrir les tritons et les grenouilles et crapauds, c'est vraiment super pour toute la famille.
Alors on passe un palier, si j'ose dire, même si ça n'est pas une question de hiérarchie, mais disons plus d'implication, en devenant bénévole. Alors c'est le pas que vous avez franchi, Michel et Marc. Qu'est-ce que ça signifie pour vous concrètement, et d'ailleurs pour l'instant, qu'est-ce que vous avez pu faire pour aider de façon peut-être un peu plus concrète le conservatoire?
En plus de l'adhésion, on a été reçu par Sylvain au conservatoire, et puis le courant est bien passé. On recherchait quelque chose qui soit convivial, quoi, un bénévolat convivial. Et donc moi j'ai participé à une animation, j'ai aidé Sylvain, c'était le forum Carrefour du tourisme, voilà. Donc c'était sympa parce que ça permettait de croiser plein d'autres organismes. Et puis après on a parti, je suis allé voir Lloyd à la tourbière des Fous, et c'est passionnant parce que Lloyd t'es passionné, et puis ensuite c'est un très beau site, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de voir des choses qu'on ne connaît pas.
Et pour vous, Michel?
Et moi, en fait, j'ai accompagné Sylvain dans un collège où on intervenait dans l'éducation de jeunes qui avaient un petit peu envie de faire des choses dans leur collège, au niveau de la mare. J'apprends autant que ces petits jeunes, et ça me fait très plaisir de me remettre dans le milieu naturel.
Et ça, c'était peut-être l'aspect éducation, enseignement, c'est quelque chose qui vous intéressait particulièrement?
Voilà, j'ai participé beaucoup à des choses comme ça, dans diverses activités où le contact avec les jeunes m'intéresse.
Et puis, alors, autre forme d'implication, les conservateurs bénévoles, je me tourne vers Lloyd puisque c'est leur représentant ici. Alors, Antoine nous le disait, vous êtes un peu chouchouté, mais alors pourquoi donc? Vous vous occupez, vous en l'occurrence, de la tourbière des Frous, alors c'est à Manou, près de Senonches. Alors, quel est votre rôle?
Alors, le rôle des conservateurs, il est multiple. Le premier, c'est en fait, on fait le lien entre le garde nature, donc un salarié du conservatoire, et le site où on est. Parce que le garde nature ne peut pas forcément faire tous les sites tous les jours. Mmh. Donc nous, on a comme mission principale en fait d'aller sur le site régulièrement. Alors il n'y a pas d'échéance, hein. C'est pas une obligation du conservatoire de nous obliger à y aller tous les jours ou toutes les semaines. C'est en fonction de notre emploi du temps, de notre disponibilité aussi. Donc on passe régulièrement sur les sites pour faire le lien, en effet, voilà, donc transmettre des informations.
Et alors, quel genre d'informations vous transmettez?
Alors, ça peut être sur des dégradations qui sont arrivées, par exemple, si je prends l'exemple de la tourbière, on a pas mal d'arbres, donc des bouleaux qui peuvent tomber du fort vent, donc ça peut être déjà ça peut être la dégradation des aménagements qui ont été amenés, mmh, au vu du temps, ou au vu de personnes mal intentionnées. Et puis, ça peut être aussi, la surveillance... des travaux en fait qui sont mis en place par des prestataires du conservatoire.
D'accord.
Donc ça c'est un des rôles, et après on a d'autres plus simples, ça va être la distribution des affiches lors des animations, donc des chantiers bénévoles par exemple, des animations sur des thématiques diverses et variées. Nous cette année on en a fait deux autour de Tourbière des Frous, donc les oiseaux et les chauves-souris. Et le dernier, un conservateur peut être aussi amené à participer aux inventaires, donc faune ou flore, et il est aussi convier à participer au plan de gestion s'il n'est pas fait le jour où...
Le plan de gestion, on a compris que c'était le document, ça, on a bien vu ça dans les émissions précédentes, c'est un document essentiel pour le conservatoire. Alors Antoine, moi je suis adhérente. Je pense aux adhérents comme moi ou aux auditeurs qui ne sont pas encore adhérents mais qui vont le devenir après vous avoir entendu. Quand on veut devenir bénévole, on veut toujours aider, mais on se dit bah, peut-être qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans le cas des conservateurs bénévoles, est-ce que j'ai les connaissances pour donc, voilà.
Mais en fait, un conservateur bénévole n'est pas nécessairement naturaliste.
Ouais.
C'est ouvert à tous à partir du moment où on aime la nature, qu'on a un site naturel préservé par le conservatoire proche de chez soi et qu'on souhaite donner un petit peu de son temps. C'est pour ça qu'après, chez nous, on ne dit pas un tel conservateur est meilleur qu'un autre, non. Mm-hmm. C'est, chacun, en fait, participe à la hauteur de ce qu'il peut faire. Et donc, même quelqu'un qui surveille et qui nous informe, en fait, effectivement, de ce qui se passe au quotidien sur le site, eh bien, nous, ça nous évite, évidemment, de nous déplacer. Donc, c'est un relais essentiel pour nous, pour notre activité. Et donc c'est autant de temps en moins par nos salariés passés sur les sites, moins de temps de transport, etc. Donc c'est une des raisons pour lesquelles effectivement on prend le temps de les chouchouter. Quand je dis les chouchouter, c'est essayer de bien comprendre, cerner leurs attentes, mais également les aider dans les différentes missions. Alors il y a comme Lloyd, je pense qu'il a un panel d'activités qui est assez important, mais pour ceux qui souhaitent faire au moins la surveillance, eh bien on les aide aussi, on essaye.
Est-ce qu'il y a une formation d'ailleurs pour les conservateurs bénévoles ?
Il n'y a pas de formation, mais par contre, on est aidé à l'origine. On rencontre, disons, le responsable d'antenne et puis, des bénévoles référents pour bien connaître les missions qui sont attendues. Et puis, on demande... En fait, la seule chose qu'on demande, c'est qu'en fin d'année, chacun remplisse un tableau qui recense les heures qu'il a passées et ce qu'il a fait. Ça nous aide en fait à porter notre voix au niveau régional auprès de nos partenaires pour dire, eh bien, vous voyez, on a, c'est le cas par exemple, 2,5 équivalents temps plein qui sont réalisés par nos bénévoles. Et encore, c'est très sous-estimé par rapport à la réalité. Je pense qu'on pourrait largement dire qu'il y a 8 équivalents temps plein si tout le monde faisait vraiment le job. Mais voilà, là encore, on ne va pas faire la remontrance à qui que ce soit. Hein.
Bah, on va revenir un tout petit peu en arrière avec les bénévoles comme Michel et Marc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'association ? Quelle forme de bénévolat il peut y avoir ?
Eh bien, en fait, j'ai envie de dire que la mission de conservateur bénévole, c'est celle qui est la plus large, mais rien que participer à un chantier,
ouais,
ça c'est quand même... c'est souvent par ce biais-là que les gens viennent, ça arrive assez régulièrement, une sortie nature hein, en premier lieu, mais un chantier c'est le premier mode d'aide. Après, parler de nous, le bouche à oreille, c'est quand même quelque chose de tout bête, mais faire connaître. Et puis après, c'est la diffusion de supports de communication, notre calendrier de balade nature, par exemple.
Et puis l'action, comme Marc l'a précisé, l'action dans des salons.
Exactement,
oui. Et puis le volet enseignement avec Michel,
voilà.
C'est tout ça est très concret et complet. Pour finir cette interview, parce qu'elle touche à sa fin, qu'est-ce que vous pourriez dire les uns et les autres, peut-être pour inciter nos auditeurs à rejoindre la grande équipe du conservatoire ?
Pour les familles, vraiment, ce qui est important, c'est de venir à une première balade nature en fonction de leurs envies, de leurs intérêts, et puis sans forcément tout de suite adhérer, et puis de s'intéresser à tout ce qu'on peut y voir. Et en fait, après, naturellement, l'adhésion vient après quand on voit ce que le conservatoire peut faire, quand on voit ce qui est utile de faire pour préserver les espaces naturels. Donc, je pense que ça passe d'abord par l'aspect ludique d'une balade nature, et puis ensuite vient l'intérêt de l'adhésion.
Moi, je peux dire que j'ai beaucoup apprécié, entre autres, la sortie à la tourbière des fous, parce que c'est instructif. Et puis, on croise des gens comme Lloyd qui sont passionnés et qui font partager leur passion. Donc ça, c'est bien.
C'est l'aspect découverte pour vous, oui. Marc, essentiellement. Oui.
Et puis après, bon, j'attends. Ça se fera un jour ou l'autre. Sylvain m'a parlé de chantier, justement. J'aimerais participer un jour à un chantier.
Alors Michel, si vous deviez inciter nos auditeurs.
Eh bien, je ne sais pas comment je peux faire, mais j'ai été étonnée de voir qu'il y ait si peu de bénévoles qui pouvaient avoir mon profil.
Mm-hmm. Et, alors qu'est-ce que vous appelez votre profil?
Mon profil, c'est une dame de 62 ans bientôt, mm-hmm. qui a envie de faire des choses, d'en transmettre un certain savoir avec des jeunes, des enfants même. Moi, je pensais fabriquer peut-être du matériel pédagogique parce que c'était un peu la base de mon travail. En fait, je n'ai pas trop envie d'être tout le temps sur le terrain, mais je ne voudrais pas dire du travail en sous-marin, mais des illustrations, des photos, voilà. Mais on vient juste d'arriver, comme je vous dis, depuis un an, il y a beaucoup de choses à faire.
Vous pourrez vous inscrire au groupe Photoscène, justement, pour faire réaliser des photos, des illustrations. Pas de problème.
Très bien, merci.
Et Lloyd, alors?
Pour inciter les gens à revenir au conservatoire, je pense qu'au niveau du contexte environnemental où on est aujourd'hui, je pense que c'est super important que certaines gens de la population en fait, puissent se dire « moi, je vais faire un geste ». Mmh. Alors après, c'est au moins adhérer déjà et participer à une animation, parce que toute personne qui n'est pas sensibilisée en fait, à l'environnement ne peut pas forcément nous aider. Alors quand je dis « nous », je dis « nous » au conservatoire, mais et après, être conservateur... Il faut juste avoir du temps en fait, à consacrer sur un site en particulier, puis après, le reste se fait tout seul. Il n'y a pas de pression à avoir. Tant qu'on sait marcher, je pense qu'on peut être conservateur.
Pas de pression, c'est formidable. Antoine, on va peut-être se quitter en rappelant comment est-ce qu'on adhère, la première étape.
Alors, on peut adhérer très simplement en ligne, sur notre site internet, ou bien sûr, c'est encore possible par bulletin papier. Mais c'est vrai que je voulais rappeler que rejoindre le conservatoire en tant que bénévole, c'est vraiment agir concrètement en faveur de la biodiversité, en s'impliquant donc dans des actions qui sont très très variées, comme on vient de le voir. Et c'est une association qui a vraiment un intérêt dans la protection de l'environnement. On peut faire encore mieux que 400, peut-être que dans les années suivantes, on passera encore un nouveau cap.
C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Merci à toutes et à tous pour votre participation. À très bientôt.
Merci à vous, Émilie.
Merci beaucoup.
Merci à l'équipe du Conservatoire pour cette bouffée d'engagement, une équipe que vous pouvez rejoindre de la façon la plus simple possible en vous rendant sur son site internet cen-centrevaldeloire.org. Le lien sera sur la page de l'émission. Eure-et-Loire Nature est notre partenaire également, vous le savez bien, et pour ce mois-ci, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Michel Doublé, ornithologue bénévole. Michel est venu nous parler des oiseaux d'eau, ces volatiles, parfois très volubiles, parfois au contraire d'une discrétion à toute épreuve. Les oiseaux d'eau font l'objet chaque année depuis des décennies d'un comptage initié par une organisation internationale nommée Wetlands, le mot anglais pour désigner les fragiles zones humides, habitat indispensable pour les oiseaux d'eau, habitat que l'on sait particulièrement menacé. Partout dans le monde, à la mi-janvier, des centaines de milliers de bénévoles répondront à l'appel pour compter les oiseaux et ainsi évaluer les besoins en matière de conservation. Les ornithologues euréliens se mobilisent et, bonne nouvelle, vous invite à les rejoindre. Michel Doublé, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir dans nos studios pour évoquer donc ce sujet d'actualité. Avant de nous intéresser au comptage Wetlands lui-même, parlons peut-être d'abord des oiseaux d'eau. Qu'est-ce qu'on appelle des oiseaux d'eau?
En fait, il y a plusieurs familles parmi les oiseaux d'eau. Bon, ce qu'on imagine évidemment sont les canards, parce qu'on a beaucoup d'espèces. Mais il y a d'autres familles qui sont aussi des oiseaux d'eau. Donc on peut commencer par les grèbes. La famille des grèbes, qui en fait, à la différence des canards, ont les pattes très en arrière du corps, n'ont pas les pattes palmées de la même façon, les pattes plus lobées, et sont des oiseaux complètement adaptés à l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vivent que sur et dans l'eau. Ils ne peuvent pas se déplacer à terre parce qu'ils ont les pattes très en arrière du corps. Et donc, ils sont absolument adaptés à l'eau et donc à la pêche. Ce sont des plongeurs. Alors, il y a aussi des canards plongeurs. Mais là, c'est une famille vraiment uniquement de plongeurs.
Les grèbes, on les voit sur les plans d'eau, y compris euréliens.
Oui, ça fait partie des espèces d'oiseaux d'eau qu'on voit le plus facilement sur les plans d'eau. Surtout qui sont spectaculaires, les parades nuptiales, quand ils ont les petits sur le dos. Donc c'est vraiment une espèce, le grèbe huppé, parce qu'il y a d'autres espèces, mais c'est l'espèce la plus commune qu'on peut rencontrer partout. Et donc c'est l'espèce là, vraiment très sympa et inévitable.
Inévitable, mais avec ces belles couleurs cuivrées au moment des parades.
C'est spectaculaire.
Spectaculaire. Alors, donc, canards. Alors, c'est vrai que les canards, on n'a pas cité peut-être les espèces qu'on peut rencontrer en Eure-et-Loir.
Alors, en fait, canards, il y a les canards de surface et canards de plongée, plutôt. Donc, les canards de surface, le col vert, évidemment, c'est le plus
incontournable.
De loin le plus répandu. Ensuite, il y a la petite sarcelle d'hiver, qui est un petit canard au vol très rapide. Et puis ensuite, il y a donc d'autres canards de surface, mais qu'on va observer, notamment au moment du comptage, en nombre très restreint. Et puis après, les canards plongeurs, donc les fuligules. Les canards plongeurs ont le corps plus massif, plus lourd. Ça leur permet de plonger assez profondément. Et donc là, on rencontre surtout le fuligule milouin, avec sa belle tête rousse, et le fuligule morillon.
Qui est noir et blanc.
Oui, c'est ça.
D'accord. Donc, les canards, les grèbes, est-ce qu'on a d'autres espèces ?
Alors, dans la famille des anatidés, au-delà des canards, on a deux grandes espèces. On a le cygne tuberculé, que tout le monde connaît, et la bernache du Canada, donc qui est originaire d'Amérique du Nord, comme son nom l'indique.
Elle est considérée comme une espèce invasive en France ?
Pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle ne pose pas de problème vraiment particulier. Bon, elle est un peu agressive comme toutes les oies. Mais par contre, c'est vrai qu'elle se développe vite, hein, puisque maintenant, en Eure-et-Loir, elle niche communément dans la vallée de l'Eure, et on peut, au comptage, on en trouve souvent plus de 200 individus.
D'accord. Alors, quelles autres espèces on peut croiser sur
Après, il y a les cormorants.
Oui.
Donc, cormorants très adaptés à la plongée aussi. Mais à la différence des grèbes, par exemple, c'est une espèce qui a beaucoup de mal à sécher ses ailes. Parce que les oiseaux d'eau, en fait, ont une glande qui leur permet d'enduire le plumage d'huile. Ça leur permet donc de pouvoir rester dans l'eau sans avoir froid après leur plongée, notamment. Mais chez le cormoran, ça ne fonctionne pas bien. Et donc, il est obligé, donc, il va dans l'eau souvent pour pêcher, mais dès qu'il est sorti de l'eau, il se perche sur un arbre, il étend ses ailes et il les fait sécher. Sinon, il aurait des problèmes sérieux de refroidissement, en fait.
Alors, est-ce qu'on a aussi peut-être des oiseaux plus discrets ?
Alors après, on a les ralidés. La famille des ralidés. Donc les ralidés, ça va être la foulque macroule, c'est l'espèce qu'on rencontre communément sur les plans d'eau. Il y a la poule d'eau. Elle, on ne la compte pas dans les comptages parce qu'elle est répandue sur toutes les rivières, donc ce serait difficile de les recenser. Après, on a encore les laridés, c'est-à-dire mouettes goélands. Donc on n'est concerné que par la mouette rieuse, en tout cas en hiver, en Eure-et-Loir. Donc, qui se rassemblent en bande, en dortoir, le soir. Et puis après, on a les hérons. On peut citer quatre espèces de hérons. Le héron cendré, bon, qui est
le
facile
plus,
à sans voir.
Sans doute le plus connu, voilà.
Le plus connu. Mais qui, ceci dit, moi, quand j'ai commencé à faire de l'ornithologie, on n'en voyait pas. Parce que à cette époque, ils étaient encore chassés. Et donc, il y avait des effectifs tellement faibles qu'en Eure-et-Loir, on n'en voyait quasiment pas.
D'accord.
Mais depuis, donc, l'espèce a été protégée en 1974. Donc depuis, évidemment, les effectifs se sont reconstitués. Et on a maintenant des comptages avec 100 à 200 individus dans le département. On a la grande aigrette, même taille que le héron, mais toute blanche. Donc espèce nouvelle, puisque en fait, jusqu'à la fin des années 90, on n'en voyait pas en Eure-et-Loir. Au niveau du comptage, on a commencé à en avoir quelques-unes à ce moment-là. Puis ça a augmenté au fur et à mesure des années. Et maintenant, lors des comptages, on en a 60, 80. Et même avant le comptage, en période où il y a des vidanges des temps, il peut y en avoir encore davantage. En fait, c'est une espèce qui était aussi chassable avant. Et donc, elle était particulièrement recherchée pour ses plumes, les aigrettes. Et donc, elle était vraiment massacrée partout. C'est pareil, en fait. À partir de l'est de l'Europe, lorsqu'elle a été protégée, elle a commencé à remonter ses effectifs.
Recoloniser. Voilà. D'accord. Il y a un vol de grande aigrette, c'est absolument sublime.
Oui, c'est magnifique.
Une autre petite aigrette ?
L'aigrette garzette. Donc elle, toute blanche, mais de taille nettement plus petite. Donc elle aussi, c'est une espèce qui a colonisé, à telle enseigne que depuis 2011, elle niche dans nos départements. Et elle niche maintenant dans la plupart des départements français. Donc maintenant, c'est pareil, au niveau du comptage, on peut en trouver 25 ou 30 facilement.
Alors il y a aussi peut-être c'est à ce petit héron que vous pensiez, le bihoreau gris qu'on peut observer aussi en Eure-et-Loir.
Alors voilà, donc lui c'est une espèce particulière parce que crépusculaire et nocturne, donc avec une silhouette un peu différente, un petit peu plus lourde.
Plus trapu.
Plus trapu surtout. Et donc c'est un héron qui, de par ses mœurs et de par ses cris particuliers, est tout à fait remarquable aussi. Et c'est aussi remarquable au niveau du département, parce que depuis 1979, il niche avec Luzel. Oui. Et c'est une espèce qui, à l'époque, ne nichait pas dans la moitié nord de la France. Même encore maintenant, les colonies sont assez peu répandues dans le nord de la France. Et puis, l'autre particularité, c'est que, alors que la plupart des bihoreaux hivernent dans le sud, ceux des Cluzel passent l'hiver chez nous. Donc, on peut les observer aussi en hiver.
D'accord. Alors, on a balayé tout un tas d'espèces d'oiseaux d'eau, des espèces qui sont facilement visibles pour le grand public. Est-ce que ce sont des oiseaux qu'on peut observer facilement ?
À partir du moment où on est attentif, tout est là, évidemment. Et si on a des jumelles, c'est quand même mieux. Mm-hmm. Ça permet, alors à part le bihoreau, donc qui est discret, lui, qu'on peut voir, mais c'est plus difficile, toutes les autres espèces, on peut les observer.
En veillant à ne pas troubler leur tranquillité, ça. Ce sont peut-être, alors ça dépend des espèces que vous avez citées, mais peut-être est-ce que ce sont aussi des espèces un peu craintives ?
Il y a deux cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a les espèces qui sont notamment encore chassées, donc qui sont évidemment craintives, et puis les espèces qui sont devenues confiantes, parfois les gens vont leur donner du pain, ce qui n'est peut-être pas la solution, mais donc vont les nourrir, et donc là évidemment c'est facile de les voir, de les photographier à ce moment-là.
Alors justement, par rapport aux espèces qui sont chassables et d'autres qui ne le sont pas, comment est-ce que ces décisions sont prises ? Comment est-ce qu'on détermine quelle espèce peut être chassée ou pas ?
Alors là, c'est un point sensible. Mm-hmm. En fait, ce sont les États qui décident de la liste des espèces chassables. Donc à ce niveau-là, la France est mal placée. C'est-à-dire qu'on est un pays où il y a beaucoup d'espèces qui sont chassables. Alors que certains pays, il y a 10-15 espèces d'oiseaux, pas plus, qui sont chassables. En France, il y en a des dizaines et des dizaines. Et en particulier, parmi les oiseaux d'eau, au niveau des canards, à de rares exceptions près, toutes ces espèces sont chassables. Même des espèces, je parlais du filigule milouin tout à l'heure, qui ne se portent pas bien, dont les effectifs régressent, il est toujours chassable.
Voilà, vous disiez que c'est un point sensible, c'est sur la vulnérabilité de ces espèces que voilà, la tension se cristallise.
Oui, parce que souvent, les zones humides sont menacées, sont en voie de régression, donc le milieu est tellement menacé que les oiseaux ne trouvent de moins en moins de milieux pas favorables, surtout pour se reproduire. Donc, si en plus on ajoute la chasse, évidemment, ça fait mal pour les espèces qui ne sont pas très bien portées.
Alors justement, vous évoquiez les zones humides, elles sont directement liées à la vie des oiseaux d'eau. Donc ces zones humides, est-ce qu'il y en a en Eure-et-Loire ? On n'est pas forcément un département, il y en a beaucoup, mais il y en a quand même.
Oui, alors, en fait on a deux types de zones humides, enfin trois, mais bon, par rapport au comptage, deux. C'est-à-dire les anciennes balastières des vallées, surtout vallée de l'Eure, vallée du Loir. Il y en a aussi vallée de l'Huisne, vallée de l'Avre. Donc ce sont des plans d'eau alors, qui sont en général plus ou moins restés en l'état, qui servent souvent à la pêche, à la chasse aussi. En fait, il y en a toute une série tout au long des deux vallées, surtout de l'Eure et du Loir. Et puis à part ça, donc, on a les étangs du Perche surtout, ou dans des parcs de châteaux, qui sont aussi souvent chassés, mais qui sont aussi attractifs pour les oiseaux d'eau.
On a quelques marais, je pense au marais d'Onneau que j'ai pu visiter il y a quelques mois.
Les marais, effectivement, on a en particulier les marais les plus riches, c'est le marais de la vallée de la Conie, donc, qui font partie de la liste des sites qui sont comptés. Et donc là, qui sont plus difficiles à recenser, parce qu'évidemment, c'est des milieux fermés, mais qui peuvent être riches d'espèces inhabituelles et qui sont particulièrement remarquables pour la nidification. au-delà de du stationnement.
Alors, vous parliez des menaces qui pèsent sur ces zones humides. Quelles sont-elles, ces menaces? Essentiellement, la pression exercée par l'homme, la démographie, etc. Le fait qu'on empiète sur ces zones?
Alors oui, le fait que, ça n'a pas été le cas récemment en Eure-et-Loire, mais certaines sont carrément asséchées, notamment des zones de marais. Donc ça, c'est catastrophique pour toutes les espèces de ces milieux. Et puis, l'utilisation qui est faite, ça peut être effectivement du ski nautique, ça peut être des activités qui dérangent beaucoup les oiseaux, la chasse évidemment. Donc la tranquillité, en fait, n'est pas souvent présente sur ces milieux.
Alors, on en vient à ce fameux comptage. Alors, ce n'est pas un hasard si le mot est anglais, donc wetlands. C'est une opération qui a lieu depuis des années.
Alors, ça a commencé donc au niveau international en 1967. Donc, petit à petit, de plus en plus de pays s'y sont mis. Maintenant, c'est une participation quasiment... de tous les continents et tous les pays.
Là, le chiffre que j'ai pu avoir, c'est 143 pays, et donc ça représente 150 000 bénévoles qui participent au comptage.
Oui, c'est impressionnant.
Oui.
Alors l'intérêt, en fait, de faire le comptage dans tous les pays à la même date, ça permet donc de recenser les effectifs des espèces et donc de voir l'évolution au fur et à mesure des années.
Pourquoi d'ailleurs cette date de janvier, mi-janvier?
Parce que c'est la période la plus favorable pour le stationnement des oiseaux d'eau. Si on le faisait en décembre, il y a encore des mouvements en fait de migration qui se produisent. En février, il y a déjà des oiseaux qui remontent pour aller nicher. Alors que là, mi-janvier, on est au cœur de l'hiver. Les oiseaux sont installés pour passer le maximum de temps pour se restaurer. Donc c'est pour ça que c'est toujours traditionnellement mi-janvier.
Alors on va peut-être expliquer un petit peu à nos auditeurs justement ces mouvements migratoires, parce que dans le comptage, il y a des oiseaux qui ne sont pas français. On a ce qu'on appelle des hivernants, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors c'est compliqué parce que parfois, chez certaines espèces, on a à la fois des locaux qui nichent et puis des hivernants qui viennent du nord de l'Europe. Bon, c'est vrai chez beaucoup d'espèces, notamment chez les canards. On a par exemple, si je prends l'exemple du colvert, à partir du mois de janvier, on a déjà des couples de colverts qui se cantonnent, qui s'installent et qui vont pondre parfois très précocement. Et par contre, on a des bandes de colverts qui restent jusqu'au mois de mars et qui vont s'en aller par la suite.
Le comptage en lui-même, vous faites partie des bénévoles qui l'effectuent. Comment est-ce que ça se déroule?
Alors en fait, chaque département... à une association, un coordinateur pour le département, donc c'est Eure-et-Loire Nature. On a Daniel Hainaut qui, depuis le début, coordonne. Et donc, les différents plans d'eau sont répartis en fonction souvent des lieux d'habitation des ornithos. Et donc, chacun a charge de compter son secteur chaque année.
Alors, comment est-ce qu'on compte des oiseaux?
Donc, on se rend, alors de préférence le matin, dans des bonnes conditions météo.
Oui.
Parce que s'il y a du brouillard, par exemple, évidemment, c'est
pas
possible.
Ça va être moins facile.
Donc, c'est pourquoi, en fait, il y a une petite latitude de bouger le comptage. Là, ça va être le 12 et 13 janvier. Mm-hmm. C'est le plus proche du 15. Mais s'il faisait très mauvais, s'il y avait, par exemple, beaucoup de brouillard, ça peut être décalé au week-end d'après.
D'accord.
Ça arrive de temps en temps.
En fonction des conditions météo.
Voilà.
Et donc, alors, comment est-ce qu'on peut estimer la taille d'une population d'oiseaux? Je pense aux oiseaux qui peuvent se regrouper. Comment est-ce qu'on fait pour y voir clair?
En fait, il faut les compter. Alors donc, on utilise naturellement les jumelles, mais aussi les longues vues, surtout pour les grands plans d'eau. C'est beaucoup plus facile. Et donc, on recompte une deuxième fois pour avoir un effectif plus précis possible.
Donc c'est l'effectif le plus précis possible, il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de choses comme ça?
Alors c'est-à-dire que sur les grands plans d'eau ou sur les côtes où il y a des effectifs énormes, il y a une estimation, on va dire. Alors que nous, la taille des plans d'eau permet de chiffrer de façon vraiment assez précise les effectifs.
Quel est l'enjeu en fait de ce comptage? Qu'est-ce que ces chiffres vont apporter au niveau donc international?
Ça va justement montrer l'évolution des populations, puisque à l'issue de chacun des comptages, il y a un compte-rendu qui reprend les résultats et qui mesure justement les différences à la fois par rapport à l'année dernière, mais surtout sur les 10 dernières années, sur les 20 dernières années, et donc qui va donner une bonne évaluation, en fait, de l'évolution des populations. Et donc, si, justement, des espèces se portent mal, de plus en plus mal, on a au niveau international et au niveau national ce qu'on appelle les listes rouges. Donc, les oiseaux sont classés en fonction des risques de disparition, parfois, pour les plus rares. Et donc, ça apporte des éléments pour ces classements, justement.
D'accord. Qu'est-ce qui est nécessaire pour effectuer ce comptage ? Vous êtes ornithologue amateur depuis longtemps, j'imagine. Mmh. Alors, quelles sont les qualités, j'allais dire, naturalistes requises pour effectuer ce comptage ?
Il faut bien savoir, évidemment, identifier les espèces. Mmh. C'est la base. Ce qui fait qu'au début, en fait, on essaie d'emmener sur le terrain des gens qui sont plus débutants, qui veulent se former, pour qu'ils nous relèvent.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que ça nécessite beaucoup de précision, surtout par rapport aux canards. Le fait que les mâles sont très colorés, on ne peut pas confondre un mâle de col vert avec un mâle de souchet, par exemple. Par contre, les femelles sont assez ternes, donc il faut la observer dans de bonnes conditions pour pouvoir justement faire la différence.
Il faut un œil expert. Alors justement, est-ce que ces comptages, ils peuvent être ouverts au public pour les personnes qui souhaiteraient justement commencer à se former, à se familiariser avec ce comptage ?
Eh bien, en l'occurrence, tous les ans, le comptage d'Écluzel est ouvert au public. Il faut dire, j'en ai pas encore parlé, mais parmi les différents sites qu'on a en Eure-et-Loir, c'est incontestablement le plus riche. Le plus grand, d'abord, en superficie. Le plus tranquille, puisqu'en fait, il n'est pas chassé.
Oui, et puis il y a toute une zone...
Une zone tranquille, une zone de marais.
Voilà, une zone tranquille, oui. Ouais.
Et là, en fait, on peut voir toutes les espèces, contrairement à d'autres sites qui peuvent être aussi intéressants. Mais là, toutes les espèces que j'ai citées, on les trouvera avec l'Uzel. Et donc, aller une première fois avec les commentaires d'un ornithologue, c'est déjà intéressant,
c'est
spectaculaire.
Précieux. Ce sera le 12 janvier pour cette année pour Écluzel. Je vous donnerai tous les détails tout à l'heure. Alors vous allez justement effectuer le comptage au plan d'eau d'Écluzel ou vous serez un peu sur tous les terrains ?
Non, moi je serai sur la vallée de la Conie.
D'accord.
On a chacun nos secteurs. D'accord. Et donc.
Et alors justement, vous nous expliquez que c'était plus difficile d'accès. On envisage ça un petit peu différemment, j'imagine, le comptage. C'est presque une expédition.
Oui, c'est plus compliqué parce que, bon, autant sur un grand plan d'eau, on va avoir un ou deux points au bord pour faire les comptages. Mmh. Autant là, il faut se déplacer, il faut essayer d'aller dans différents endroits pour... bon, ça ne sera pas exhaustif sur un site comme ça, mais essayer d'avoir une bonne idée des oiseaux qui stationnent.
Les oiseaux au niveau international et alors toutes espèces confondues sont menacées. Vous qui vous passionnez pour les oiseaux, qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cette interview à nos auditeurs qui peut-être passent sans vraiment les remarquer ? Les oiseaux font souvent partie du paysage et on ne réalise pas forcément qu'on en croise et quelles espèces. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour inciter les gens à ouvrir l'œil ?
Alors en fait... Les oiseaux d'eau sont pas les plus menacés. Bon, il y a certaines espèces, notamment à cause de la chasse ou des milieux qui se détériorent, qui sont en régression indiscutablement. D'autres, on l'a vu pour les aigrettes, par exemple, par contre, progressent. Donc globalement, ce ne sont pas les plus menacés. Par contre, des espèces sont très, très en régression, en particulier les espèces de plaine. Les espèces de plaine sont toutes en train de se casser la figure.
Celles qu'on va retrouver dans les champs,
dans
alouettes
les alouettes, les perdrix, les bruants, toutes ces espèces-là, ce qui montre que le milieu s'est appauvri, parce que c'est toutes les espèces qui diminuent.
Et comme on le répète souvent dans cette émission, connaître, c'est déjà protéger. Voilà pourquoi il faut s'y intéresser. Michel Loublet, un grand, grand merci à vous. Et donc, bon comptage.
Merci.
Merci à Michel Doublet. Le comptage Wetlands aura donc lieu le week-end des 11 et 12 janvier prochains. Et le comptage du plan d'eau d'Écluzel est ouvert à toutes les bonnes volontés qui souhaitent se familiariser avec les oiseaux d'eau, fascinants et d'une grande diversité, surtout sur ce site près de Dreux, comme nous l'a rappelé Michel. L'opération Canard dans la brume, comme l'a nommée avec humour Eure-et-Loir Nature, aura lieu le dimanche 12 janvier à partir de 14h30 à Écluzel. Cette sortie est gratuite, mais vous devrez vous munir d'une paire de jumelles et sans doute d'une grosse écharpe. Il faut absolument réserver, il reste encore une vingtaine de places, beaucoup moins, je l'espère, au moment où vous écouterez cette émission. réservation en ligne sur le site de Dreux Agglomération qui co-organise. Le plus simple, c'est de vous rendre d'abord sur le site d'Eure-et-Loir Nature, eln28.org, ou de suivre le lien que Simon ne manquera pas de vous mettre sur la page de l'émission. Je vous espère nombreux pour cette mission hivernale d'intérêt général, aux côtés d'ornithologues chevronnés qui aiment par-dessus tout transmettre leur passion, comme Michel l'a fait pour nous aujourd'hui. Encore un grand merci à lui. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. N'ayez pas peur, aucune mauvaise onde d'en toucher terre, simplement une chouette effraie l'un des plus beaux habitants de nos campagnes. Son ramage ne se rapportant pas à son plumage, elle a hérité d'un nom assez injuste, alors que l'on aurait pu mettre en avant, par exemple, son célèbre disque facial en forme de cœur. Celle que l'on surnomme la Dame Blanche était dernièrement au cœur des attentions du club CPN de Saint-Lubin-de-la-Haye, dans le nord du département. Je vous parle des chouettes renards, c'est le nom du club, depuis quelques numéros déjà, et il était grand temps que vous fassiez la connaissance des enfants et de Pierre Bresson, créateur du club. Je vous parlais en début d'émission de donner du temps. Eh bien Pierre ne compte pas le sien. Il anime, avec une grande générosité, se forme à la nature et ses secrets, et partage sa passion avec les enfants, mais aussi, vous le verrez, avec leurs parents. Le 30 novembre dernier, les chouettes renards avaient une mission, poser le nichoir à chouettes effraies qu'ils ont fabriqué avec l'aide de l'association Athéna 78. La pose avait lieu chez des agriculteurs de la commune, Monsieur et Madame Le Guillou. Ces derniers ont accueilli avec beaucoup de gentillesse les chouettes renards, leurs parents et les deux reporters que Simon et moi étions ce jour-là. Mais avant de passer aux grands travaux, quelques explications s'imposent. Nous les devons à Dominique Robert, président de l'association Athéna 78, une véritable force de et pour la nature. Je vous l'ai dit, les ornithologues ne demandent qu'à partager leur passion. Vous fallait-il une preuve ? La voici.
Athéna 78, ça veut dire d'abord terroir et nature en Yvelines. Donc c'est un acronyme. Alors Athéna 78, c'est pas non plus par hasard, c'est un petit clin d'œil justement à la chouette chevêche. Donc c'est pas celle dont on va parler aujourd'hui, mais la chouette chevêche, elle s'appelle Athénée Noctua, donc de son nom latin. Et donc on a fabriqué un acronyme pour l'association qui protège de longue date la chouette chevêche. Alors pour revenir à la chouette effraie, aujourd'hui le nichoir, ça va être le 134e du nom. Ça veut dire que l'on protège la chouette effraie depuis 26 ans. On a commencé en 1993, en pays oudanais. Donc là, nous situons en pays oudanais, sachant que la communauté de communes du pays oudanais est à cheval sur le département des Yvelines et le département de l'Eure-et-Loire. Voilà, donc ça nous amène, ce découpage administratif, à venir opérer en Eure-et-Loire, en limite de notre secteur d'activité prioritaire qui sont les Yvelines, mais avec beaucoup d'intérêt aussi pour ces communes-là. La chouette effraie est une sacrée paroissienne, parce qu'en fait son nom c'est les frais des clochers. Voilà, on a un réseau de sauvegarde de la chouette effraie. Partout il y a une tache verte, ça veut dire que partout il y a un nichoir pour la chouette effraie. Et lorsque, sur la tache verte qui marque l'emplacement de la commune, il y a une petite église, eh bien ça veut dire que le nichoir est dans le clocher. Et on est à 60% dans les églises, 30% chez les agriculteurs. Donc il reste 10% dans les centres équestres et chez des particuliers dans les greniers. Donc en priorité dans les clochers, parce que cette chouette, les frais des clochers, elle est dans sa place parce que c'est un bâtiment élevé, facile d'accès. Et puis dans les bâtiments agricoles, on va dire que l'agriculture a joué un rôle important dans l'extension géographique de l'aire de la chouette effraie. Depuis que l'homme est agriculteur, donc depuis le néolithique, la chouette effraie qui vivait dans les cavernes, qui vivait dans les grottes, qui vivait dans les éboulis rocheux, mais quand l'homme est devenu agriculteur et qu'il a construit les bâtiments, qu'il a construit les maisons pour cultiver la terre, il a aussi édifié des greniers pour garder les réserves d'une année sur l'autre, eh bien la chouette effraie s'est déplacée. Et la chouette effraie est venue s'installer dans les greniers, dans les parties hautes, etc. Ensuite, avec le défrichage de la forêt, c'est une chouette qui ne vit pas en forêt, donc ça c'est important de le rappeler, elle n'est pas en forêt. Hein, si votre maison est proche d'un bois et que le soir vous entendez... Bon, ça c'est la chouette hulotte, elle vit dans la forêt, c'est pas le milieu de vie de la chouette effraie. Donc elle est dans les espaces ouverts et elle va rechercher les bâtiments. Toujours les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments. Donc voilà, donc on est sur un réseau de protection où on essaye d'impliquer les élus. Donc chaque fois qu'on est dans un clocher, ça veut dire que chaque fois l'élu, le conseil municipal, a apporté son accord. Et ça fonctionne très bien, hein, sans salissure. Parce qu'évidemment, quand on installe un nichoir dans un bâtiment public, ça peut être une église la plupart du temps. On est à côté de Houdan. À Houdan, c'est dans le donjon de Houdan. Voilà. Eh bien, le nichoir est plaqué contre l'ouverture, contre le grillage. C'est-à-dire qu'on garantit absolument aux élus qu'il n'y aura pas de chouette à aller ailleurs que dans une boîte close, fermée. Ça, c'est très important. Hein, il n'y aura aucune crotte, aucune déjection sur la cloche, dans les combles, etc. Parce qu'elle n'aura pas accès. Elle rentrera dans le trou d'entrée qu'on voit là et elle sera dans un espace fermé. Et elle ne pourra pas aller ailleurs que dans la boîte. Donc ça, c'est très important pour nous de bien expliquer aux élus comment on pose le nichoir. Les clochers sont grillagés à 90% partout à cause des pigeons. Voilà, et donc il n'est pas question de faire rentrer la chouette effraie qui va faire des déjections alors que le clocher est déjà grillagé à l'encontre des pigeons. Donc voilà pour la façon d'installer les nichoirs dans les clochers.
Merci à Dominique Robert de l'association Athéna 78 pour cette introduction généreuse et pédagogique dans une ambiance que vous devinez chaleureuse. Après cette entrée en matière, le nichoir est apporté dans le séchoir qui l'accueillera et dans lequel notre petit groupe est réuni. Mais au fait, pourquoi ici ? La parole est à nos hôtes, monsieur et madame Le Guillou.
Régulièrement dans le séchoir, ils nichaient tous les ans ces oiseaux. Au moment de la mise en route du séchoir, ça m'est déjà arrivé de sortir des petits qui étaient dedans. Et puis un peu, j'ai dit, moi, il faut que je mette mon séchoir en route. Hein. Alors, je les mettais un peu à droite et à gauche, hein, comme la nature le pouvait. Hein. Donc, tous les étés, on entend la chouette, le fameux cri de la chouette effraie. C'est un chouintement. Hein. Il y en a déjà très peu. Et c'est vrai que sur le haut de mes silos, quand je les reprends au printemps, je rencontre des pelotes. Il y en a plein sur le dessus. Alors, on les décortique. Et puis, il y a des petites souris, des petits os dedans. Donc, bon, pour moi, ça m'est utile parce que les souris à la ferme, on en est envahi. Voilà.
Ça nous a semblé vraiment intéressant, sachant qu'il est fait par les enfants de notre école, donc c'est encore mieux. Exactement, donc ça, c'est plutôt sympathique. Et du coup, c'est moi qui vous remercie. Enfin, nous vous remercions parce que c'est vous qui nous avez remercié en arrivant, mais quand même, vous avez fait un beau projet. Ce nichoir va se tenir sur le mur, là. C'est ce qu'on avait vu, voilà, pour vous indiquer un petit peu déjà.
Les chouettes renards entrent dans l'arène, guidés par leur chef bienveillant Pierre Bresson et toujours par Dominique Robert qui vous dit tout sur la chouette effraie et son deux pièces.
Début septembre, des enfants du club des chouettes renards, ils ne sont pas encore tous arrivés, mais on peut les citer, hein, Axel, Mathéo, Clément, Jeanne, Anaël, qui avait d'autres, Maïli. Donc voilà, c'est tous des enfants de l'école de Saint-Lubin. Alors, sous le patronage, le haut patronage de l'association Athéna 78, parce que sans eux, ça ne serait pas possible, on n'a pas les compétences, on ne sait pas faire. Et ce sont eux qui ont eu l'immense bienveillance de nous accueillir à l'occasion de leur rentrée. Ils nous ont délégué Jean-Luc, qui a pris en charge le montage des enfants. Au fur et à mesure de la journée, les adultes ont quand même pas mal aidé. Parce qu'il faut bien imaginer que les enfants, au bout d'un moment, ils ont lâché prise, ce qui est normal. Mais ils ont bien bossé. Et puis par la suite, ils ont fait la personnalisation. Ça, c'était hyper important de mettre une trace. Parce que je pense que c'est un beau travail qu'ils ont fait et ils peuvent en être fiers. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis chez Monsieur Le Guillou, qui va devenir parent. On va laisser faire la nature, on lui c'est donne ça. Un petit coup de main, et oui. Puis le reste, on croise les doigts.
Alors, on va faire venir les constructeurs. Où sont les constructeurs? Allez.
Allez, venez.
Allez, les fabricants, là. Par où rentre la chouette? C'est quoi son trajet?
Par la trou.
Et alors après, qu'est-ce qu'elle va faire?
Elle va rentrer, elle va soit partir de ce côté-là, ouais. Soit de ce côté-là.
Voilà. Et alors pourquoi il y a un deux pièces?
Elle peut faire deux nichés.
Donc la chouette est fraîche. Alors on va dire la femelle d'abord. Hein, la femelle, c'est là en bonne condition. Donc c'est là très bien mangée. C'est là en pleine forme. Elle fait d'abord une première ponte. Donc elle pond des œufs. Elle pond des œufs vers le mois d'avril. Elle couve ses œufs 30 jours. Ensuite, pendant qu'elle couve ses œufs, le mâle la nourrit, la mâle la ravitaille. Ensuite, les bébés vont naître. La femelle, elle va rester sur ses poussins pendant à peu près 12-15 jours. Parce que les poussins, ils sont très petits, ils n'ont pas beaucoup de duvet, et la femelle, elle leur apporte la chaleur nécessaire. Pendant ce temps-là, le mâle nourrit la femelle et les poussins. Et à un moment donné, les poussins grandissent encore un petit peu. Quand ils ont à peu près 20-25 jours, la maman, la femelle, elle se met à chasser avec le mâle. Les deux parents nourrissent les poussins. Alors ça dure encore quelques semaines. Et puis si la femelle est en très bonne forme, à ce moment-là, elle est capable de répondre une deuxième fois. Et ça, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, c'est quand même difficile. Donc ça ne se produit pas tous les ans. Et ça, ça se produit quand? Eh bien, ça se produit quand il y a beaucoup de nourriture. Alors maintenant, c'est à vous de parler. C'est quoi la nourriture de la chouette effraie?
Les souris, les campagnols.
Alors les campagnols, c'est très important de les citer, parce que les campagnols, ils ont une capacité à se reproduire incroyable. C'est-à-dire qu'un papa et une maman campagnole, qui se retrouvent au mois de mars, donc à la sortie du printemps, un couple est capable de générer 100 petits au mois d'octobre, au mois de novembre. Et ça, ce qui est extraordinaire chez la chouette effraie, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de nourriture, elle-même, elle est capable de faire deux nichés, donc de pondre deux fois plus d'œufs, d'élever deux fois plus de jeunes, qui, l'année d'après, vont être là pour manger des campagnols. Donc c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire cet oiseau-là, alors on l'a baptisé une éponge. Une éponge, c'est-à-dire c'est juste un mot pour dire qu'elle a une capacité à tout de suite absorber l'évolution de la nature. S'il y a beaucoup de campagnols, très très vite la femelle elle réagit. Et elle produit plus d'œufs, plus de bébés, et le couple élève plus de jeunes, voilà. Et ces jeunes-là vont manger plus de campagnols l'année suivante. Donc c'est une façon de réguler par la nature l'excès de petits animaux qui créent des dégâts dans les cultures. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une alliée des agriculteurs et elle a vraiment un rôle et une place vraiment très très importante. Donc c'est un prédateur. Un prédateur, ça veut dire que ça attrape des petits animaux vivants. Voilà, elle se nourrit de petits animaux vivants. Donc c'est la chouette effraie. Donc on revient à notre nichoir. On lui fabrique deux chambres parce que lorsque les bébés ont à peu près 40 jours, la femelle elle change de côté. Elle va dans la case à côté. Et là, elle est tranquille pour à nouveau pondre, à nouveau couver, encore 30 jours. Pendant ce temps-là, le mâle, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit sa femelle et il nourrit les jeunes de la première nichée. Voilà. Et puis tout se passe bien. À un moment donné, la première nichée, elle s'envole, elle prend son indépendance. Et puis après, le couple, il continue à élever la deuxième nichée dans la case à côté. Donc voilà, donc nos nichoirs, ils sont adaptés aux très bonnes années. Ça ne se passe pas tous les ans, voilà. Mais aux très bonnes années, le nichoir peut accueillir la même année, hein, deux nichées successives.
Un petit mot sur les campagnols. Ici, c'est d'autant plus que ici, l'exploitation, je ne laboure plus les champs depuis 1996. Donc, c'est les campagnols me donnent des fois des cheveux blancs. Voilà. J'ai énormément de campagnols. Pour quelles raisons? Le fait qu'on passe un outil, la charrue, dans les champs, détruit systématiquement les campagnols. Tous ceux, les gens, les agriculteurs qui labourent, ça retourne la terre et systématiquement, quand j'étais jeune, j'ai labouré et on voit régulièrement, des fois, on voit de la paille et tout ça, et hop, les campagnols sortent. Bah, ça y est, on a détruit le nid et c'est fichu pour eux. Et généralement, ils nous laissent tranquilles, ils ne nuisent pas à la culture qui est en place. Et le fait de plus labourer, eh bien, ils nous font des ronds, et des ronds qui se multiplient par dizaines, voire par des fois par centaines, sur un linéaire de 500-600 mètres.
Sur
du blé. Principalement du blé et du colza. Et du colza. C'est les deux cultures appétantes. Ouais. L'escourgeon, un peu moins. L'escourgeon, c'est l'orge d'hiver. Un peu moins, mais le blé et le colza. Ouais. Voilà. Alors donc, si l'hiver n'est pas trop rigoureux pour la chouette, pourvu qu'elle prenne les campagnols.
Ça, à quoi ça sert?
Bonjour.
Et qu'est-ce qu'on regarde?
S'il y a des bébés.
Eh ben voilà. Donc là, on va l'installer.
On vient une première fois fin juin. Première chose, on ferme le nichoir. Parce que quand on arrive, on peut toujours tomber sur un couple en retard. On vient à une date où on espère que tous les poussins sont nés. Mais si c'est un couple qui est en retard, eh bien la femelle peut être en train de couver. Donc ça, c'est très dangereux. Si jamais on ne fermait pas et qu'on se permet, on va dire, d'ouvrir une petite trappe pour regarder, la femelle est sur ses œufs, pof, elle se sauve et elle s'en va, elle s'envole et elle part pour on ne sait pas combien de temps, peut-être pour plusieurs heures. Si elle abandonne ses œufs pendant plusieurs heures, ils se refroidissent et les embryons qui sont dans l'œuf risquent de mourir. Donc ça veut dire qu'on a fait de grosses bêtises. Alors donc, la première chose, c'est quand on arrive, on ferme la trappe. Après, on inspecte. La première chose que l'on regarde, c'est quel âge ont les poussins. Donc déjà, on entrebâille. On regarde avec une petite lampe. Est-ce qu'il y a un adulte? Et quel âge ont les poussins? Alors, si les poussins sont en bas âge, par exemple, on tombe sur une ponte en train d'éclore. Imaginons. Ça veut dire qu'il y a quelques œufs et quelques bébés tout petits, tout roses, juste à côté. Alors là, danger. Il faut absolument que la femelle se remette sur eux parce qu'ils ont besoin d'eux pour leur chaleur. Troisième cas, on avance dans la maturité des poussins, et eh bien on tombe sur les poussins de 25 jours, 30 jours, 40 jours. Pas de problème, la plupart du temps la femelle n'est plus avec eux, elle est partie ailleurs. Par exemple, dans les bâtiments ici, elle va dormir sur une poutre. En gros, on se dit, pour être tranquille, c'est-à-dire, là les parents vont sourire, c'est qu'elle a besoin d'être tranquille, parce que la nuit elle les nourrit, elle a besoin d'être tranquille le jour, et en gros, comme les bébés sont un petit peu turbulents, et qui leur demandent la nourriture et qui chuintent, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, là, eh bien, ils vont être en train de la solliciter. Donc les deux adultes, les deux parents vont dormir ailleurs, dans les bâtiments, dans un petit coin sombre. Comme ça, ils se reposent tranquillement, pour pas que leurs jeunes viennent leur casser la tête pendant la journée. Alors là, on en attrape un, le plus grand, et on l'examine, on lui donne un âge. Voilà, et on les compte et on referme. Ensuite, on ne revient pas avant le 10 septembre, mais on recommence. C'est-à-dire, rappelez-vous, on a eu un été torride, exceptionnellement chaud. Eh bien, dans les bâtiments ruraux, pas loin des toitures, plus on monte vers la toiture, et plus il fait chaud. Et donc, on a eu sept pontes abandonnées. Donc, on peut supposer que la chaleur a eu un impact. On pense que c'est ça la cause de l'abandon. Donc, il y a des mauvaises nichées, notamment les deuxièmes, qui peuvent tenir au fait que l'été est très, très chaud. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va mettre deux échelles en place, côte à côte, à peu près, on se mettra à peu près au milieu, justement. Et puis le nichoir, on va le suspendre sous la charpente, avec des fils de fer et avec des câbles.
un trou là, on passe un fil de fer, un autre trou là, un trou là, un trou là, on passe un fil de fer, on accroche.
C'est dur de tendre un fil de fer.
C'est dur de tendre un fil de fer.
Non, tu vois pas le trou?
Je vois le trou, mais j'arrive pas à le faire passer dedans.
Ta tête est trop grosse.
Ta tête est trop grosse. Est-ce que tu le vois, le fil? Vas-y.
Pousse dessus.
Allez, c'est parti.
C'est bon.
Tiens, attends, il faut ouvrir la trappe. Voilà. Par contre, du coup, c'est pas les enfants qui montent sur les échelles à 4,50 m.
Alors, il y a des.
Rose, là, c'est qui ça?
Il y a des adultes bricoleurs, là, faut attraper l'échelle là-bas.
C'est qui?
Adultes bricoleurs.
Adultes bricoleurs. Il y en a un qui va monter ici, un autre qui va monter sur l'autre échelle là, donc les deux échelles sont écartées comme ça, pour pouvoir monter avec le nichoir. Et le nichoir, on va l'attacher avec ici là, mais il faut d'abord faire des trous dans les chevrons. Hein, on va passer le câble dans le chevron, voilà.
Donc, on peut pas avoir le vertige là.
Oh non, là c'est pas un problème de vertige là. Ah. Non, on sait pas où là.
On est à combien là? À peu près
5 mètres. Voilà. 6 minutes sous Fagure 20. 125 mètres. Pour installer
c'est
un nichoir. Ouais, pour installer un nichoir à faux congresserelle.
Vous l'aurez compris, la pose du nichoir nécessite de solides gaillardes et gaillards, pas ou peu soumis au vertige. Les enfants sont donc restés les pieds sur terre et moi j'en ai profité pour promener mon micro. C'est d'abord vers Pierre qu'une blessure au doigt empêchait de jouer les acrobates que je l'ai tourné. Il nous raconte la belle aventure des chouettes renards.
Alors les chouettes renards, on a démarré il y a un peu moins d'un an sur la base en fait d'un petit groupe d'amis de mon fils et de sa classe. Aujourd'hui, ça commence à s'élargir. On essaye de multiplier les sorties, mais ce n'est pas toujours évident parce que les enfants ils sont sollicités. Ils ont foot, ils ont danse, ils ont tennis, ils ont tout plein d'activités. Le but, c'est de toujours rappeler qu'il y a une activité qui est... très importante pour leur épanouissement et pour leur enrichissement et leur implantation aussi dans le village parce qu'ils sont ici un peu par hasard tous. Il n'y a pas d'enfants qui sont là depuis des générations et finalement c'est un moyen de les territorialiser. Et donc ce groupe, il est né, il essaye de grandir et puis il y a un moment pour grandir, il y a des étapes. Ces étapes, elles ne sont pas toujours faciles parce qu'il faut que les gens s'impliquent. C'est pas toujours évident, on n'est pas des professionnels de la nature et donc on peut compter par exemple sur l'apport d'associations qui sont elles spécialistes et qui sont dévouées depuis des années. C'est le cas de Dominique et d'Athéna 78 et puis je pense qu'eux ils ont à cœur de leur côté à ce que des petits, des jeunes viennent parce que ce sont les futurs adhérents de ces associations de protection et de défense de la nature et donc plus ils commencent tôt, plus ils sont sensibilisés.
Alors justement, Pierre, vous disiez que vous n'êtes pas des spécialistes de la nature. Moi, je pense aux gens qui nous écoutent et qui se disent « Ben, moi aussi, pourquoi pas, si je veux créer mon club CPN ?» Alors comment on fait quand on ne se sent pas spécialiste pour se lancer quand même?
Alors quand on n'est pas spécialiste, du moment qu'on a l'envie, qu'on a la passion un peu de temps malgré tout à se donner, maintenant le temps, on trouve toujours. C'est-à-dire que son temps, on choisit de le mettre. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi pour mon fils et puis pour ses copains d'y consacrer un peu de temps. Finalement, il ne faut pas grand-chose, en fait. On a tous un petit bagage de connaissances.
Et puis, on peut apprendre.
On peut apprendre. Moi, je me suis inscrit à un MOOC ornithologie et puis je me fais aider, encore une fois, d'Athéna qui va me donner un coup de main. Mais en fait, il faut compter sur la bienveillance d'associations. Et puis, soi-même, on peut... de toute façon, du moment qu'on a envie, le reste, les enfants n'attendent pas des connaissances académiques. Nous, on est là pour allumer, on va dire, un feu. Ce qu'on y met dans ce feu, c'est un peu de curiosité, un peu de...
C'est une attitude par rapport à la nature.
C'est une attitude. Ça ne peut pas durer 2 heures. On n'est pas là pour leur faire une conférence académique. Mais pour autant... Ça, c'est des moments qui comptent, dans le sens où ils sont sensibilisés. Ça, c'est la première chose. Et quand on est sensibilisé, derrière, on a envie de connaître. Et là, on va aller vers la connaissance. Nous, on leur montre juste qu'en fait, près de chez nous, il y a des sources de découvertes qui sont extraordinaires. Et dans 5 ans, dans 10 ans, eh ben, ils auront trouvé que peut-être leur truc, c'est l'entomologie, c'est l'ornithologie, c'est la botanique. Ça peut être plein de choses. Ça sera ce qu'ils veulent en faire. Le but aujourd'hui, c'est de leur montrer que même dans nos paysages qu'on qualifie pas forcément d'extraordinaire, on n'est pas dans un parc national, on n'est pas dans ces fabuleuses images qu'on voit, mais quand on se lève le matin de bonne heure, des belles images, on peut en voir.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci. Merci, Émilie.
Et les enfants, alors? Ce sont eux les acteurs principaux de ce club « Connaître et protéger la nature ». Ils nous le présentent avec leurs mots et sans montage, ou si peu. Alors les enfants, est-ce que je peux vous déranger un tout petit peu?
Oui.
Je voudrais que vous me disiez ce que c'est que les chouettes renards. Qu'est-ce que vous faites?
On aide les chouettes et on les soigne.
Et je crois que vous avez rencontré une chouette il y a quelque temps.
Oui, on a rencontré.
Vous vous souvenez de ça?
Le bagage des chouettes.
Alors c'est quoi?
Le bagage des chouettes, c'est quand on bague les chouettes pour savoir quand elles sont nées et pour les reconnaître. Et une fois, on est allé voir plein d'autres oiseaux qui avaient plein d'autres chouettes. À Rambouillet, au centre de soins. Et bah, la prochaine fois, on va faire une sortie ornithologique pour les oiseaux avec un vrai ornithologue. On est de la nature, on fait des balades dans la nuit.
Dans la nuit?
On avait invité plein de personnes. On m'a fait une balade en forêt.
Est-ce que c'est facile de marcher la nuit?
Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt facile. Et on a vu des vers luisants.
Oui. Ça vous a pas fait peur la nuit?
Non, si, un peu moins. Une fois, on est allé se balader en forêt, mais le jour.
Et alors, qu'est-ce que vous avez vu?
Des champignons.
C'est quoi ton oiseau préféré?
Un aigle.
T'en as vu déjà?
Oui. Moi, c'est un rouge-gorge.
Et tu en as vu aussi?
Oui. Bah, dans mon jardin, moi, j'en vois beaucoup des rouges-gorges. Moi, mon grand-père, il adorait les rouges-gorges.
Il adorait les rouges-gorges, c'est vrai? Et toi aussi, alors?
Oui, beaucoup.
Moi, mon oiseau préféré, c'est le chouca des tours.
Et est-ce qu'il y en a ici?
Et moi, j'en ai déjà vu un.
Alors, qu'est-ce que tu aimes chez ces oiseaux?
Bah, j'aime bien leurs couleurs. Je trouve qu'ils sont très jolis. J'aime bien leur bec aussi. Nous, on en a déjà reçu un dans notre maison parce qu'il était blessé. Du coup, on l'a relâché, vu qu'il allait mieux. Et à la dernière sortie, c'était la construction du nichoir.
Ouais.
On est parti des planches jusque au nichoir.
Alors, comment vous avez fait? Parce que ça m'a l'air compliqué.
On a pris des planches, on les a vissées entre elles, on a fait les portes. Ma sœur a fait de la scie sauteuse pour couper les portes. Et du coup, on les a mis dedans.
Et après, on a fabriqué le nichoir.
Oui, après, il était
terminé.
Fait une sortie où on allait plâtrer des empreintes. On allait les mettre du plâtre dans un bout en plastique et chic dans la terre. Et on a récupéré les empreintes.
Et vous avez des empreintes de quoi, alors?
De cerfs.
De cerfs.
Comment est-ce que vous faites pour les reconnaître?
On avait
un guide, peut-être?
Un petit guide, oui. Et on pouvait laver des fiches transparentes. On la mettait et on voyait que c'était soit un cerf, soit une biche.
Et on avait même vu un sanglier. Une fois.
Bon, alors vous allez continuer, les chouettes renards, ça vous plaît?
Oui, c'est trop bien.
C'est trop bien, oui. Pourquoi c'est trop bien?
Parce que, en même temps, on apprend et en même temps, on s'amuse un peu. Bientôt, je crois qu'on va faire une sortie.
Mais ça sera avec un vrai ornithologue.
De vrais petits CPN, comme dirait le créateur des clubs dans les années 70, Monsieur Pierre Déhomme, par ailleurs créateur du journal le plus lu dans les terriers, La Hulotte, qui m'a accordé, souvenez-vous, une interview dans le deuxième numéro de Touche et Terre, c'était au mois d'octobre. Des clubs CPN répartis désormais sur tout le territoire, qui permettent à des enfants, comme les chouettes renards, de découvrir la nature et ses trésors. Mais pas seulement les enfants. Qu'en disent les mamans? Je vous dérange un tout petit peu. Ben, pour vous demander, les chouettes renards, ce que vous en pensez, vous, puisque ça apporte à vos enfants?
Ça apporte beaucoup de choses. Ça leur fait découvrir leur milieu qui les entoure, et notamment de protéger un peu la nature. Et ils n'ont pas conscience forcément de ce qui est à côté d'eux. Et du coup, ils apprennent drôlement de choses, et nous aussi.
Moi, c'est le descotch un peu de la télé, des jeux vidéo, et je trouve ça assez super qu'ils puissent se rendre compte de ce qui l'entoure réellement, voilà.
C'est un partage, hein. C'est être tous ensemble, vraiment, ils apprennent pas mal de choses. Donc on n'a pas vraiment l'occasion, nous, on n'a pas le temps en général chez nous de le faire. Et là au moins, ils sont tous ensemble, ils écoutent et ils apprennent beaucoup de choses. Donc c'est super.
Je tenais à rajouter, je tire mon chapeau à Pierre qui nous permet de vivre ça pour les enfants et pour nous. Et c'est un moment convivial et ça leur permet aussi peut-être plus tard de changer leur regard sur ce qui les entoure.
En parlant de changer leur regard, est-ce que vous avez déjà, le groupe est tout récent, mais est-ce que vous avez déjà quand même senti un petit changement dans leur attitude par rapport à la nature ?
Oui, parce que rien que récemment, moi je me promène beaucoup, j'ai des chiens, et quand je me promène avec Mathéo, maintenant on est obligé d'emmener un sac poubelle pour ramasser les déchets qu'on rencontre. Et du coup, parce qu'il me dit si les animaux ils les mangent ou autre, c'est pas bon pour leur environnement. Donc du coup, voilà, on fait des ramassages nature.
Mon fils, c'est pareil. Hein, quand il voit un papier, il dit « Oh maman, c'est pas bien !» Et puis on ramasse et on a toujours quelque chose pour ramasser et on fait toujours attention à ça. Donc c'est pareil.
Bon, on regrette qu'il n'y ait pas trop de papa.
Voilà.
Qui nous accompagne.
Moi, dans le quotidien, oui, la consommation d'eau. Il va penser à éteindre le robinet, éteindre les lumières. Enfin, oui, il change de regard par rapport à ça. Et surtout sur les déchets aussi. Tout ce qu'on peut faire, on peut recycler, on peut faire plein de choses.
Ça, aussi, ouais. On a installé, je crois Christine aussi et moi, on a installé une mangeoire pour les oiseaux pour l'hiver. Parce que c'était primordial de nourrir les petits oiseaux qui nous entouraient. Voilà.
Est-ce que c'était à l'origine des sujets peut-être qui vous intéressaient ou qui intéressaient vos enfants ou pas forcément? Peut-être qu'au départ il a fallu oser un petit peu s'intéresser à ce genre de choses.
Alors pour moi personnellement, je travaille déjà dans le milieu vétérinaire, donc je suis très intéressée. Je suis surtout sur chiens et chats, mais le reste m'intéresse beaucoup. Ouais.
Moi, j'avais une sensibilité par rapport au sujet sans vraiment la pratiquer non plus. Et je change d'attitude et je change aussi beaucoup les choses avec Clément, en fait. Et à travers le regard des enfants, on s'aperçoit qu'ils ont des idées beaucoup plus simples que nous et faut vraiment les écouter, faut vraiment être avec eux et puis avancer avec eux.
Pareil, nous, on a des poules, donc du coup, alors on est très bio, on commence à être vraiment à faire attention à ça, à la nature, à ce qu'on mange. Donc du coup, tout ça fait permettre de continuer et apprendre toujours. On apprend tous les jours. Donc grâce
à... nous en apprend beaucoup. Voilà. Je suis impressionnée de son savoir.
Et pendant ce temps-là, Dominique et les valeureux poseurs du nichoir n'ont pas chômé. Le nichoir a trouvé sa place en haut de la grange.
Eh ben ça y est, c'est en place.
Bravo.
Bravo.
Comme le disait Pierre, ne reste qu'à croiser les doigts pour qu'au printemps prochain, une belle surprise attende les enfants et récompense leurs efforts. Nous arrivons en ce qui nous concerne au terme de ce reportage. J'espère que vous êtes toutes et tous restés à son écoute, que vous avez pris le temps. Un immense merci à Pierre Bresson, super papa qui ne demande qu'à inspirer d'autres parents euréliens. Vous trouverez toutes les informations pour créer votre club CPN sur le site de la Fédération des clubs Connaître et protéger la nature, dont le lien vous attend, bien sûr, sur la page de l'émission. Merci à Monsieur et Madame Le Guillou pour leur accueil enthousiaste. Merci bien sûr à Dominique Robert et à l'association Athéna 78, dont l'action est plus précieuse que jamais. Et enfin, merci aux enfants du club et à leurs parents. Longue vie aux chouettes renards. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à notre deuxième club CPN eurélien, les Clouques de Chartainvilliers. C'est la fin de ce long voyage de janvier. Pour moi, il aura été revigorant. C'est une belle année qui s'annonce en Eure-et-Loire pour la nature, tant que ses gardiens répondent présents. À l'heure des bonnes résolutions, celle de rejoindre l'une, l'autre ou nos deux associations partenaires vous semblera peut-être évidente. Peut-être aussi choisirez-vous d'autres associations de défense de l'environnement, car il y en a beaucoup dans notre département. Adhésion, bénévolat, découverte, partage, transmission, quelles que soient les formes que prendra votre engagement, je ne peux rien vous souhaiter de mieux pour cette année 2020 que de toucher terre. Au mois prochain, sur Radio Grand Ciel, nous ferons notamment la connaissance d'une illustratrice, naturaliste et scientifique, la poétique Elsa Bugeaud. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur notre site radiograndciel.fr. Thank you.